La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
J-1 avant l'ouverture du prochain Festival de Cannes. Je vais me faire un limbago en me penchant comme ça. Et qui dit Festival de Cannes dit envie de votre serviteur de vous parler de cinéma. Quel dommage que pour ce faire, je monopolise le temps d'antenne de cette matinale de 19h alors que je pourrais très bien avoir une émission, par exemple une bimensuelle qui parlerait de Péloche sur Radio Campus Paris et que je tiendrais avec autant d'assiduité que je n'éprouve de passion pour le 7e art. Allez, 77e édition du Festival de Cannes qui a occasionné une vidéo passionnante de Bolchegeek. Le youtubeur propose dans sa chronique Pop Uller sur la chaîne du journal L'Humanité tout un épisode sur le rapport entre Cannes et la politique. Un an après le discours de Palme d'Or de Justine Triet qui s'est inquiétée de la possible disparition de l'exception culturelle française, elle lui a valu d'ailleurs quelques saillies de macronistes l'accusant de cracher dans la soupe avec une mauvaise foi qui ferait revenir Hanouna sur France 4. Bolchegeek revient dans sa vidéo sur cette polémique et plus généralement sur le festival et la politique, le rapport entre les deux, de ses racines antifascistes aux discours poignants qui ont jonché son histoire comme l'histoire d'autres cérémonies, mais aussi l'accueil de tous ces discours engagés par la bourgeoisie. Parce que oui, les discours, l'accueil des discours par la bourgeoisie, comment résumer ? C'est à géométrie variable, ce qui fait que l'accueil peut généralement aller de « oh c'est bien que ces saltimbanques rendent hommage aux petites gens » à « ouh les indécents vilains bolcheviques qui gâchent notre fête pailletée sur la croisette ». Je corrobore tout à fait avec cette vision de Bolchegeek, je me permettrai quand même d'ajouter quelque chose sur la capacité qu'a la bourgeoisie à créer une défiance envers les discours engagés des cérémonies. Parce que d'un côté, il y a bel et bien cette stratégie qui consiste à dire que les Justine Triet, les Ken Loach, les Empaches gâchent la fête avec des propos ingrats, mais il y a aussi une stratégie qui consiste à dire que ces discours plombent la cérémonie. Vous le savez, les cérémonies de remise de prix, particulièrement en France, ont la réputation d'être très chiant. La faute quand même principalement à des humoristes qui ne réussissent qu'à faire rire que quand elles ne sont pas drôles et qu'on s'en rend compte, et à des interminables, surtout des minables discours de Miss France appliqués au cinéma. Le cinéma, c'est une image qui bouge. Tout ça crée un océan d'ennui qui ferait passer à la recherche du temps perdu de Proust pour une soirée techno. Dans cet océan d'ennui, quand on a le traditionnel discours de défense des intermittents du spectacle, par exemple, bah ça tombe à l'eau, ça tombe comme un cheveu sur la soupe parce qu'on a passé toute l'heure qui précédait à dormir, si bien que de nombreux exemples existent de moqueries à l'égard de discours engagés, juste parce que c'est dit chiant. Après, si les cérémonies de remise de prix tenaient leurs promesses de divertissement, les bourgeois ne pourraient plus se moquer de discours engagés pour leur capacité à créer des longueurs, mais elles pourraient toujours s'indigner des discours trop à leur gauche, ce qui fait que Bolchegeek aurait toujours raison, ce qui fait que cet édito ne sert à rien. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir et soyez les bienvenus dans la matinale de 19h. On était à l'instant à J-1 de l'ouverture du Festival de Cannes et dans le grand sujet du jour, on sera surtout à J+1 des élections régionales en Catalogne. On revient sur ce scrutin, ses enjeux, comme sur la victoire des socialistes espagnols arrivés devant les indépendantistes qui perdent par la même occasion leur majorité au Parlement régional, avec Benoît Peillistrandi, historien, professeur en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris et spécialiste de l'Espagne contemporaine. En deuxième partie d'émission, le Zoom part au Magic Barbest United, festival qui va mêler concerts, conférences, poésie et même olympiades culturelles. Guilhem ira un peu plus dans le détail de la programmation. Allô ? Avec Agnès Prouin, responsable de l'action culturelle, des partenariats et des relations publiques du FGO Barbara qui accueille la manifestation Je suis allé trop longtemps du 22 au 26 mai. Ce n'est pas tout puisque le programme de ce soir sera ponctué de chroniques, évidemment celle de Rosalie, un indice chez vous sur son sujet belge, et en fin d'émission, nous accueillerons Esteban qui conclura du coup le bal. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter la matinale.
La matinale de 19h.
J+1, disais-je, après les élections régionales en Catalogne, la deuxième communauté d'Espagne a vu la victoire du Parti Socialiste qui n'a pas obtenu de majorité au Parlement régional mais obtenu suffisamment de sièges pour mettre fin à plus d'une décennie de domination des partis indépendantistes catalans. Benoît Peillistrandi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris et spécialiste de l'Espagne contemporaine. Vous allez nous aider ce soir à y voir un peu plus clair sur les conséquences à tirer de ce scrutin. Et pour mener cet entretien, j'accueille tout de suite Elios et Hugo à qui je passe la main. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, messieurs.
Vous nous entendez bien ?
très bien.
Très bien. Alors, les élections ont vu la victoire de le PSC, qui est le Parti Socialiste Catalan, allié du PSOE, Parti Socialiste Espagnol National, devant la liste de Junts de Puigdemont, donc 27,96 pour le premier et 21,61 pour le second. Quelles sont les évolutions de ces élections par rapport aux élections générales de 2023?
Alors, il faut comprendre en effet que le Parti Socialiste de Catalogne est un parti à part entière. Le Parti Socialiste en Espagne a une structure fédérale, alors que le pays n'est pas un État fédéral, on le sait, mais extrêmement décentralisé. Le résultat des élections marque une grande différence avec les élections nationales parce que l'électorat catalan ne se mobilise pas de la même manière. Les élections régionales mobilisent moins que les élections nationales et pour des raisons qui sont liées à la sociologie. Et ce depuis en fait que l'Espagne a retrouvé la démocratie dans les années 1977-1978. Il faut donc savoir que la Catalogne est une région qui a reçu beaucoup d'émigration économique et que beaucoup d'Andalous sont venus s'installer en Catalogne parce qu'il y avait du travail. C'est l'exode rural. Et cet électorat-là, qui n'est pas du tout indépendantiste et qui n'est pas nationaliste, vote socialiste et a longtemps voté socialiste jusqu'au début des années 2010. Et aux élections nationales, le Parti Socialiste est à peu près toujours, sauf une fois, le premier parti de Catalogne. En revanche, aux élections régionales, on note une mobilisation moindre de ceux qui ne sont pas, entre guillemets, catalans d'origine, et c'est la raison pour laquelle les nationalistes, devenus ensuite indépendantistes sécessionnistes, ont eu une majorité en siège et en voix depuis 1980, et c'est pourquoi le résultat d'hier représente incontestablement une inflexion, puisque c'est la première fois que le Parti Socialiste gagne des élections régionales en voix et en siège.
Donc si je vous comprends bien, c'est le résultat d'hier est lié à l'immigration extérieure à la Catalogne, c'est ça?
Alors non, c'est-à-dire là j'expliquais un peu la structure du vote. Et ce qui se trouve, c'est qu'on a une société catalane qui est fatiguée de ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire la tentative de sécession et d'indépendance, et donc en fait qui a échoué, si bien que les électeurs catalans se trouvant un peu, j'allais dire, désorientés, ont choisi de faire confiance au Parti Socialiste qui, depuis Madrid, avec Pedro Sánchez, a choisi la conciliation avec les indépendantistes catalans à travers la loi d'amnistie et qui, en Catalogne, se présente comme une alternative aux gouvernements indépendantistes et une alternative pour reprendre, je dirais, la gestion du quotidien. Ça a été le thème essentiel de la campagne de Salvador Illa, le candidat socialiste, oui. Et qui a dit « Arrêtons d'être dans des chimères d'indépendance et occupons-nous de la vie quotidienne des Catalans et réparons les services publics, la santé, l'éducation. » Et c'est un peu sur ces thèmes-là que s'est faite la campagne et c'est sur ces thèmes-là, visiblement, que Salvador Illa a gagné hier.
Très bien. Et on sait que ces élections sont apparemment anticipées. Qu'est-ce qui a provoqué ces élections anticipées, justement?
Alors, on le sait, l'histoire politique de la Catalogne, elle est marquée par le grand événement de 2017, au cours duquel le gouvernement, qui était à l'époque emmené par Carles Puigdemont, a prononcé l'indépendance de la Catalogne, sans fondement juridique, et que ça a fait un flop. En 2017, le gouvernement espagnol est intervenu à travers l'article 155 de la Constitution, c'est-à-dire en fait qu'il s'est substitué aux autorités régionales catalanes et il a convoqué des élections qui avaient vu en décembre 2017 la victoire des non-nationalistes du centre droit, de Ciudadanos, les centristes. Et puis ensuite, on a eu les non-indépendantistes avaient gagné les élections mais n'avaient pas la majorité pour gouverner, si bien qu'il y a eu un gouvernement indépendantiste qui a tenu jusqu'en 2021. En 2021, il y a eu à nouveau des élections et cette fois-ci, les indépendantistes ont à nouveau eu la majorité absolue. Il y a eu un accord entre indépendantistes de gauche et de droite, un accord qui n'a pas tenu. Et en février dernier, le gouvernement de Pere Aragonès, qui était le président de la Généralité de Catalogne, n'a pas réussi à faire voter son budget. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi d'aller aux urnes. C'est un mauvais calcul pour lui, puisqu'il est le grand perdant de l'élection d'hier.
Mais donc, qui est Carles Puigdemont, qui a l'air d'être devenu à peu près une des figures centrales de la vie politique espagnole?
Oui, Carles Puigdemont, il est en 2017 le président de la Généralité de Catalogne, et c'est lui qui se considère un peu comme le père de la patrie, et qui a, en octobre, voulu prononcer l'indépendance de la Catalogne. Mais je vous l'avais expliqué, ça a échoué, et il a pris la fuite, il s'est retrouvé...
Allô ?
Benoît Payistrandi, historien, professeur en classe préparatoire. Vous êtes toujours avec nous ?
Oui.
Oui, ça a été coupé.
Allô, vous m'entendez ?
Il y a une coupure, oui.
Ah, vous m'entendez, là ?
Oui,
bon. Je disais, donc, Carles Puigdemont avait été retourné en... Enfin, avait fui la justice espagnole et avait placé son quartier général à Waterloo, en Belgique. Et il prétend incarner la légitimité historique du mouvement indépendantiste catalan. Alors, aujourd'hui, il va être le grand bénéficiaire de la loi d'amnistie qui a commencé d'être examinée par le Parlement espagnol, qui a été votée par la Chambre des députés, mais qui n'est pas encore votée par le Sénat, où d'ailleurs elle sera rejetée. Mais Carles Puigdemont était en fait un personnage qui avait perdu de son influence politique jusqu'à ce que, par le miracle, j'allais dire, des hasards électoraux, il se retrouve au centre du jeu politique en juillet. Les élections générales qui ont eu lieu en Espagne en juillet n'ont pas permis de sortir une majorité claire, et le Parti socialiste a réussi à attirer les 7 députés de Carles Puigdemont et de la coalition Junts dans son camp, avec comme contrepartie la loi d'amnistie. Et c'est la raison pour laquelle Carles Puigdemont est si essentiel aujourd'hui à la vie politique espagnole, puisqu'il est en réalité le point d'équilibre de toute la politique espagnole. Si demain il décide de faire tomber le gouvernement de Sanchez, il le fait tomber. Et donc la question que l'on se pose tous, c'est de savoir quel va être le prix que Carles Puigdemont va mettre après le résultat des élections régionales en Catalogne, puisque sa grande ambition, c'est de redevenir président de Catalogne. Alors, il n'en a pas les moyens parlementaires, mais il en a peut-être les moyens politiques.
Très bien. Et concrètement, est-ce qu'on pourrait voir plutôt la Catalogne devenir indépendante demain ?
Non, demain, non. Et le sentiment que j'ai, cette fois-ci comme historien, vous avez régulièrement dans l'histoire de la Catalogne des poussées de fièvre qui ont parfois conduit jusqu'à la sécession. En 1640, la Catalogne a fait sécession et a même appelé Louis XIII pour être le nouveau comte de Barcelone.
Allô ?
Benoît Payistrandi qui convient de perdre à l'instant, on va le retrouver tout de suite. Vous êtes toujours avec nous ? Benoît Payistrandi, je rappelle, historien, professeur en classe préparatoire au lycée Condorcet, spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Si vous nous rejoignez, il est avec nous au micro de la matinale de 19h pour débriefer les élections régionales en Catalogne. On parle, il y a une grosse interconnexion entre la vie politique nationale et la vie politique évidemment régionale. Benoît Payistrandi, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, moi je vous entends.
On s'était arrêté au roi Louis XIII.
Voilà, Louis XIII. Et donc ensuite, au moment de l'invasion napoléonienne, la Catalogne devient des départements français. Donc, il y a toujours eu des tentations sécessionnistes en Catalogne. Je pense que l'événement qu'on vient de vivre depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui représente une séquence qui est appelée sans doute à refluer. Le résultat des élections d'hier en est une claire indication. Et surtout, tout le monde a pris conscience, même sans se l'avouer, que l'indépendance de la Catalogne est impossible, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas la majorité sociale. Vous ne pouvez pas faire une indépendance, même avec 51% des voix, surtout quand ces 51% des voix ne représentent que 37% des inscrits. Deuxième élément, le cadre européen ne permet pas la sécession à l'intérieur d'un pays, et ça supposerait que la Catalogne quitte l'Union européenne, ça c'était très clairement dit en 2017. Donc les Catalans qui ont d'énormes intérêts économiques en Espagne et en Europe, ont compris que ce serait pas possible. Et puis, troisième élément, on a pris conscience depuis le retour, j'allais dire, du tragique en Europe avec la guerre en Ukraine et puis maintenant les événements dramatiques au Moyen-Orient, qu'il y a plus grave que des problèmes un peu artificiels comme le problème catalan. Donc on ne verra pas la Catalogne indépendante à très court terme. Maintenant, l'historien n'est pas un devin. Dans 150, 200 ans, je ne sais pas.
On verra, on a encore beaucoup de temps pour voir ce qui se passe dans 200 ans. D'ici là, je vous propose d'écouter un petit peu de musique. On reste avec vous, Benoît Paistrandi, juste après une pause musicale. Et on va écouter un peu de musique catalane, justement, 19h16.
Down.
Un peu de musique barcelonaise, comme je disais, avec le titre Missing You de John Talabot, chiné par l'équipe de MapMonde sur ces mêmes ondes en 2019. Heureusement qu'ils sont là, ceux-ci, vous écoutez Radio Campus Paris.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
19h21, nous sommes toujours en compagnie de Benoît Pays-Strandy, historien, professeur en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris, spécialiste de l'Espagne contemporaine. Je crois que j'ai dit Allemagne sans faire exprès tout à l'heure, je m'en excuse. On revient avec vous, Benoît Pays-Strandy, sur les résultats des élections régionales en Catalogne. Et je laisse la main à Hugo et Elios qui gèrent l'interview.
Alors, ces résultats ouvrent-elles donc un nouveau cycle électoral en Espagne, de par la fin du règne des partis indépendantistes en Catalogne ? Ou est-ce que c'est dans la continuité des élections de 2023 avec la victoire relative du PSOE de Pedro Sánchez ?
Eh bien, c'est toute la question. Il y a une situation compliquée pour faire émerger un gouvernement en Catalogne et le Parti socialiste fait partie de toutes les équations. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution politique qui ne passe par le Parti socialiste de Catalogne. Deux options principales. Soit un gouvernement marqué à gauche avec la gauche républicaine indépendantiste et les néo-communistes de Sumar, ce serait la réédition de ce qu'on avait appelé le tripartite qui a gouverné la Catalogne entre 2003 et 2010, mais avant la séquence sécessionniste et indépendantiste. Ou, deuxième option, une coalition entre eux, le Parti socialiste et Junts, le parti de Carles Puigdemont. Alors cette deuxième hypothèse est sans doute la moins vraisemblable. D'abord parce que Carles Puigdemont a revendiqué la présidence du gouvernement alors qu'il est derrière les socialistes et on ne voit pas pourquoi les socialistes lui feraient ce cadeau. Ce serait mortel pour eux et ça aurait des conséquences à long terme tout à fait désastreuses. Mais d'un autre côté, pour la première hypothèse, la gauche républicaine indépendantiste catalane qui avait la présidence du gouvernement catalan jusqu'à aujourd'hui, estime qu'elle a été désavouée par les électeurs et entend passer dans l'opposition. En tout cas, ce sont les déclarations post-électorales. Alors, comme le processus va être très long, et qu'en plus, nous sommes à nouveau en campagne électorale en Espagne, puisque, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne, il y a des élections le 9 juin, on va sans doute avoir une étape où les négociations vont être extrêmement secrètes. Et qui dit secret ? Dit accord d'abord entre personnes, entre partis, pour à la fois se répartir les postes pour un certain nombre de décisions. Donc on ne saura rien avant le 10 juin. Et tout dépend en réalité de la stratégie que vont choisir les deux frères ennemis de l'indépendantisme, la gauche républicaine catalane d'un côté et Junts de Carles Puigdemont de l'autre. Donc c'est assez compliqué en réalité de savoir précisément ce qui va se passer, même si, et ça c'est absolument décisif, il est évident que le résultat des élections d'hier ouvre une nouvelle étape. Alors cette étape sera-t-elle longue, durable, ou au contraire est-ce qu'elle ne risque pas d'être éphémère et est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un blocage qui nous conduirait à répéter les élections au mois d'octobre ? C'est une possibilité, mais si on répète les élections au mois d'octobre, est-ce que les électeurs vont se désavouer 4 mois après ? Donc voilà, beaucoup d'incertitudes. Sachant, comme vous l'avez rappelé, que ce qui se passe en Catalogne ne peut pas ne pas avoir de répercussions à Madrid, puisque le gouvernement de Sánchez ne tient que s'il réunit le vote des indépendantistes catalans de droite et des indépendantistes catalans de gauche. Or là, il faut qu'il choisisse son partenaire de balle, j'allais dire, à Barcelone, et est-ce que celui qui sera écarté n'aura pas la tentation de se venger à Madrid ?
Alors Benoît Pays-Strandy, justement, en parlant d'impact, en 2021, Carles Puigdemont avait été amnestié, si je ne me trompe pas.
Non. Il n'y a pas eu de l'amnistie, il y a eu des grâces individuelles pour ceux qui avaient été condamnés en 2019. Mais la situation de Carles Puigdemont est très différente, puisque en 2017, lui avait quitté l'Espagne, tandis que le reste de son gouvernement était resté en Espagne, et donc avait répondu de ses actes devant la justice. Et par exemple, vous aviez le vice-président de son gouvernement, Oriol Junqueras, qui est une des grandes figures de la gauche républicaine catalane, qui a fait de la prison et qui, lui, a assumé ses actes. Si bien que vous avez, je parlais tout à l'heure des deux frères ennemis de l'indépendantisme catalan, il y en a un qui est parti à Waterloo et qui a vécu une vie tout à fait confortable en se faisant élire député européen et en continuant d'agiter les fils de la politique catalane depuis l'extérieur, et d'autres qui ont payé 3 ans de leur vie en prison pour la lutte indépendantiste qu'ils avaient menée. Alors, eux ont été graciés, mais comme Carles Puigdemont, lui, n'est pas passé devant les juges, il ne peut pas être gracié, et c'est la raison pour laquelle il a mis comme condition une loi d'amnistie. Car la différence entre la grâce et l'amnistie, c'est que la grâce efface la peine, tandis que l'amnistie efface le délit. Et donc, avec une loi d'amnistie, vous pouvez rentrer sans être jugé. Tandis que s'il avait fallu simplement une grâce, encore aurait-il fallu que Carles Puigdemont accepte de se rendre à la justice espagnole, éventuellement soit incarcéré, soit condamné et ensuite soit gracié. Or, lui a toujours refusé cette logique-là.
Très bien, je vous remercie pour la rectification. Un autre thème, le 19 avril ont eu lieu les élections basques et le parti indépendant de gauche a gagné. Est-ce que cela a un impact aujourd'hui sur les élections catalanes, sachant que ces deux régions ont évolué dans une dynamique commune ces dernières années ?
Non, ça n'a pas eu d'impact. Il est clair qu'au Pays Basque, la chose importante, c'est que le Parti Nationaliste Basque, qui est un parti nationaliste philo-indépendantiste, mais qui n'est pas indépendantiste, gouverne la région quasiment sans interruption depuis 1980. Il y a juste eu une interruption entre 2009 et 2013. Et que le parti qui les a talonnés, c'est Bildu, qui est un parti de gauche indépendantiste et qui est l'héritier politique du groupe terroriste ETA. Et ça montre, si bien que quand on regarde les résultats, les deux tiers des Basques ont voté pour des options nationalistes ou indépendantistes. Alors, il y aura une coalition entre le Parti nationaliste basque et les socialistes pour gouverner le Pays basque. Et en réalité, le parti EH Bildu, donc, qui est l'héritier politique de l'ETA, a une stratégie de très long terme. Eux aussi soutiennent le gouvernement de Pedro Sanchez à Madrid, comme le Parti nationaliste basque, mais ils ont décidé d'attendre leur tour. Ils savent actuellement qu'ils sont plutôt en phase dynamique et ascendante, et le sentiment qu'ils ont, c'est qu'aux prochaines élections, c'est eux qui gagneront, et qu'ils pourront à ce moment-là réclamer le gouvernement de la région. Alors là aussi, c'est assez complexe, parce que l'Espagne étant un pays très décentralisé, il faut regarder la répartition du pouvoir entre la région, entre les municipalités, et quand on regarde l'implantation locale de EH Bildu, on se rend compte en effet qu'elle progresse. Ils ont par exemple pris, avec l'aide des socialistes, la mairie de Pamplune, qui est la capitale de la Navarre, et tout ça constitue des lieux de pouvoir et des leviers pour construire leur emprise progressive sur la région. Quand je dis emprise progressive, il n'y a pas de jugement négatif, c'est le résultat d'abord d'élections et de pactes passés avec les forces politiques.
Elios.
Alors la participation, moi je me suis renseigné, elle est un peu supérieure à celle qui a eu aux dernières élections en Catalogne, qui était de 51%, là elle est de 57,95%, mais elle reste quand même beaucoup plus inférieure, vraiment inférieure, à toutes les élections, ou la plupart des élections qui ont lieu avant le référendum de 2017, où là, elle atteignait plus de 70% plusieurs fois. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette participation ?
Vous avez tout à fait raison de souligner que la participation a été faible. Alors, il y a toujours d'ailleurs un écart entre la participation aux élections régionales et la participation aux élections nationales. Et en général, il y a 10 points d'écart en Catalogne. Hein, en Catalogne, c'est ce que je vous expliquais au début de cet entretien, que les électeurs résidents en Catalogne ne se sentent pas également concernés par tous les scrutins. Alors, en 2021, c'est un point bas, mais il faut se souvenir du contexte. Nous étions en pleine épidémie Covid. On était vraiment, en fait, même pas à la sortie du post-Covid, puisque les élections avaient eu lieu en février 2021. Donc, sans doute, le chiffre de 2021 est-il anormalement bas. Mais là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu un surcroît de participation qui a profité aux partis nationaux, le Parti socialiste, mais aussi le Parti populaire qui s'est redressé considérablement, Vox qui a maintenu son nombre de députés, ce qui est aussi un peu une surprise, et que la démobilisation s'est faite dans le camp indépendantiste. Alors, en 2017, on avait eu une participation record de 79%, mais attention, on était dans un contexte, j'allais dire, exacerbée, puisqu'on sortait de la déclaration d'indépendance et de la crise frontale entre le gouvernement catalan et le gouvernement espagnol. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce chiffre de participation d'hier montre que, à la fois, il y a un peu de mobilisation, mais il y a quand même une fatigue démocratique. Les électeurs ne croient pas que les élections permettent vraiment de régler des problèmes que les politiques s'ingénient à créer eux-mêmes. Et de ce côté-là, je pense que ce qui s'est passé depuis le mois de juillet et le fait que les socialistes avaient fait toute la campagne électorale en disant non à l'amnistie, il n'y aura pas d'amnistie, et puis qu'ils ont complètement changé de fusil d'épaule après le résultat des élections parce qu'ils avaient besoin du soutien des indépendantistes catalans, provoque chez les électeurs espagnols, de ceux qui ne sont pas ultra-militants, un certain dégoût de la politique. Et on le voit notamment chez les jeunes, où la démobilisation électorale chez les jeunes est croissante. Et moi, je crois que ça pose un problème pour l'avenir de la démocratie, alors en Espagne, mais en Europe de façon générale.
Une dernière question, je crois que c'est Elios qui va vous la poser, Benoît Pellistrandi.
Alors, quelles sont donc les conséquences de ces élections et de ces résultats
en peu de temps,
les conséquences si c'est possible. De ces élections, c'est sans doute d'abord que les indépendantistes se trouvent dans une position de remise en cause de tout leur logiciel politique. Donc il va y avoir, alors ça a commencé à Esquerra Republicana, puisque le président de la Catalogne actuel, Pere Aragonès, qui était leader de Esquerra Republicana, vient d'annoncer qu'il abandonne la vie politique. Ça va poser le problème du leadership de Carles Puigdemont. Donc on peut penser qu'il va falloir enfin faire le bilan de cette aventure qui a engagé la Catalogne dans une impasse, cette aventure sécessionniste. Ça, c'est sans doute la première des conséquences. Ensuite, la deuxième des conséquences, c'est est-ce qu'il y aura la formation d'un gouvernement régional qui pourra à nouveau s'occuper de gestion des questions quotidiennes, parce qu'il faut imaginer que la législature qui vient de passer, il n'y a pas eu une loi qui a été votée. Il y a eu deux budgets, mais il n'y a pas eu de loi. Et donc, c'est un bilan extrêmement faible. Et donc, on a besoin que la Catalogne se remette en marche. Et puis, troisième conséquence, c'est l'idée de Pedro Sanchez. Est-ce que la main tendue vers les Catalans à travers l'amnistie permet une politique de réconciliation? Je dirais que c'est un peu l'avenir de cette politique de réconciliation qui est actuellement en jeu. Et si, effectivement, on imagine qu'on a un gouvernement catalan qui réussit vraiment à rejeter dans les oubliettes cette crise sécessionniste, on pourra dire qu'on a tourné la page de quelque chose qui a à la fois bloqué la Catalogne, mais qui a envenimé la vie politique espagnole pendant plus d'une dizaine d'années.
Affaire à suivre, on suivra toutes les conséquences que vous venez de lister avec beaucoup de curiosité. Merci Benoît Pellistrandi d'avoir été au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes historien, professeur en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris et spécialiste de l'Espagne contemporaine. Merci Elios et Hugo d'avoir mené cette interview. Tout de suite, une deuxième pause musicale s'offre à vous sur le 93.9. C'est la matinale de 19h.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when
she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Bill Withers, Ain't No Sunshine sur Radio Campus Paris, il est 19h36.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Rosalie Berne, bonsoir.
Bonsoir.
Genre en sommaire, j'ai donné un indice pour décrire ta chronique, c'est belge, donc je pense que tu vas développer maintenant.
Tout à fait, j'ai eu la chance de traverser la frontière belge pour manger dans une baraque à frites. Et après cette expérience d'une grande richesse culturelle, je peux vous dire que la Belgique est en tout point meilleure que la France. En premier lieu, la création des frites, parce qu'aucun Parisien n'aurait osé prendre quelque chose qui provient de leur terre. Un bon Parisien se serait dit « Tiens, marrant, c'est pas jaune !» et l'aurait jeté dans la Seine. Alors oui, vous me direz, je compare la Belgique juste avec Paris, qui n'est pas le centre de la France. La ville la plus au centre, c'est Bourges, une sorte d'excroissance du 16e arrondissement de Paris. Enfin, revenons à la Belgique, car elle n'a pas que les frites à revendre, même si je pourrais m'arrêter là, parce qu'avoir des frites, c'est dans sa vie, c'est essentiel, comme respirer. Ne me jugez pas. Mais en plus des frites, les Belges ont un vocabulaire honnête. Regardez leur nombre. 90 pour dire 90, alors que les Français préfèrent calculer là où il n'y a pas de calcul. Par exemple, à l'état civil, j'ai d'abord dû apprendre à calculer avant d'avoir ma carte d'identité parce que je suis née en 1904 x 20 plus 10 plus 6. Et vous la pétez pas les 2000, votre date de naissance est de la triche. Le seul moyen qu'on a trouvé pour simplifier le français, c'est l'anglicisme. Si vous prenez le mot « stand-up », c'est joli, par contre la traduction c'est « se mettre debout ». Cette francisation que même les Québécois n'ont pas osé faire. Imaginez dire « je vais voir du se mettre debout, allez, ça va être incroyable ». Non. Mais ne vous inquiétez pas, je vais pas râler que sur la France, les États-Unis ne sont pas aussi cool qu'ils nous le vendent. Écoutez le mot « Hot Wheels ». Ça sonne bien, mais cette marque de jouets qui fabrique des petites voitures se traduit en français par « roue chaude ». Et oui, on a joué à « roue chaude » toute notre enfance. En parlant de roues chaudes, j'aimerais avoir une petite pensée à toutes ces voitures lancées des premiers étages par des enfants. D'ailleurs, l'association caritative Les Voitures Sans Frontières permet aux voitures qui ont un problème de confiance envers les enfants d'accéder à des psys formés par les films Cars. Cette association est soutenue par le film Fast and Furious qui leur donne 1% de leurs recettes des 52 derniers films. Et c'est le minimum parce que les films Fast and Furious ont une légère difficulté à garder une voiture en un morceau. Mais bon, ça, ça nous est tous et toutes arrivé de lancer notre Twingo du 29e étage. Et je lance un appel pour arrêter de se voiler la face. On parle toujours de cinéma et quand on parle de Fast and Furious, alors que c'est juste des adultes qui jouent aux petites voitures à plus grande échelle. Et quand je pense aux jouets maltraités, je pense aussi aux Playmobil. Enfin, mobiles. On parle de 4 articulations, ils sont aussi mobiles que ma grand-mère. Et en plus, la grande partie d'entre eux souffrent de troubles du stress post-traumatique après avoir été pendus à plusieurs reprises par des enfants. Enfants aussi appelés grizzly par leurs détraqueurs, joie de ma vie par les grands-parents et petit humain du diable par leurs parents. Et je tiens à mettre en lumière un acteur de la vie associative qui vient en aide aux jouets comme l'association Non, le triangle ne rentre pas dans le rond, qui donne droit aux jouets de voir Toy Story gratuitement. On remercie toutes ces associations de leur engagement et je fais un appel à l'aide aux coiffeurs. Je fais un appel à l'aide aux coiffeurs pour aider les Barbies en détresse capillaire. On peut noter que peu de jouets sont belges, peut-être parce que les enfants belges n'ont pas besoin de terroriser plus petits que lui, ou peut-être parce que les Belges ont peu de pays plus petits que lui. Après, ça me fait penser qu'on n'a jamais de nouvelles du Luxembourg. Peut-être que les Belges ont bâillonné les 3 Luxembourgeois qui restaient.
On ne sait pas, on prendra de leurs nouvelles juste après l'émission. Merci beaucoup Rosalie Berne pour cette chronique. Tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Et il prend place pour mener l'interview. C'est Guilhem qui présente le Zoom de ce soir. Bonsoir à toi.
Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde.
Ce soir, on part au FGO Barbara avec tes invités. J'ai noté ton invité, mais en fait, il y en a deux.
Exactement. Alors, pour démarrer, si je vous dis c'est à Paris, c'est dans le 18e, c'est mieux que les Champs-Élysées. Je suis Barbès. Vous avez peut-être reconnu dans cette devinette les paroles de la chanson éponyme du célèbre chanteur franco-algérien Rachid Taha, pour vous parler voilà, du festival Magic Barbès United. Donc c'est un festival qui se déroule à travers plusieurs lieux incontournables de ce quartier bouillonnant du nord de Paris, dans la Goutte d'Or. Ça mixe musique, danse, sport, jeux, et ça dure du 22 au 26 mai. Et donc pour en parler avec nous ce soir, j'accueille donc Agnès Prouin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes responsable de l'action culturelle, des partenariats et des relations publiques du FGO Barbara, qui est l'un des organisateurs de l'événement. Et avec vous, donc, nous avons Lily Anselmetti, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes actuellement en stage au FGO Barbara. Déjà pour démarrer, qu'est-ce qui rend votre festival différent de tous les autres festivals auxquels je peux aller cette année ?
Alors, il est différent. Il a la particularité d'être collaboratif, c'est-à-dire qu'il est coordonné par FGO Barbara. Et après, en fonction de la thématique, chaque année se joignent des partenaires du quartier qui se fédèrent autour de la thématique. Donc cette année, c'est Magic Barbès United, donc sur le thème du vivre ensemble, du vivre mieux, du bien vivre.
Et donc quand je regarde la fille, je vois à la fois des musiciens bien installés pour le coup sur la scène musicale. De l'autre, je voyais par exemple un des premiers événements, c'est donc un tournoi de jeux de société qui est organisé par un certain Gilène. C'est quoi les critères pour participer, pour animer un événement du festival ?
L'envie. C'est le premier, c'est vraiment le critère principal. Et après, effectivement, par rapport à la programmation, ben la locomotive entraîne les plus petits.
D'accord. Et votre festival, alors je regardais, il s'appelait simplement Magic Barbès il y a 2 ans. Il est devenu le Magic Barbès Express l'année dernière. Puis là, maintenant, on est sur Magic Barbès United. Pourquoi ces changements de nom ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est la thématique. Chaque année, il y a une thématique différente. Nous avons eu les héritières. Et l'Express, l'année dernière, c'est parce qu'on a été contraint de faire un Magic Barbès très court sur une journée. Donc, d'où le nom Express. Et cette année, comme je vous l'ai dit, c'est United par rapport au fait de fédérer et de bien vivre ensemble, d'être unis. Un quartier uni et solidaire.
Un quartier justement uni, solidaire. Est-ce que ça... Donc là, c'est la 15e année que vous organisez ce festival. Est-ce que c'est désormais, vous êtes bien implanté, les gens vous connaissent, est-ce que c'est un festival attendu à Barbès ?
Oui, alors attendu, il faudrait demander aux habitants, mais en tout cas, nous, c'est très important pour nous, c'est un rendez-vous inconditionnel dans notre programmation. D'où le fait que l'année dernière, on en ait fait un, même s'il était express, on était vraiment contraint, mais c'était inimaginable de ne pas avoir un Magic Barbès dans la saison.
Oui. On parlait également donc, des artistes, il y a aussi une grande diversité sur les lieux. Je voyais, on trouve à la fois des cafés, on trouve le FGO Barbara. Ces lieux, pareil, comment est-ce que vous les trouvez ? Est-ce que eux viennent à vous ou vous allez vers eux ?
C'est ça, comme c'est collaboratif, nous on lance la thématique chaque année auprès de nos partenaires et après c'est eux, en fonction de cette thématique, qui disent bah, j'aimerais organiser tel événement chez moi ou ailleurs chez un partenaire.
Est-ce qu'il y a des lieux justement qui sont nouveaux, que vous n'aviez pas avant ?
Oui, ça on est.
Est-ce qu'on peut vous demander lesquels ?
On est très contents, donc on a cette année on a la Gare du Nord, donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce qu'une gare c'est symbolique, ça part vers l'étranger, ça part, vers l'ailleurs. Et on a aussi un partenaire donc en face de la Gare du Nord qui est un hôtel qui s'appelle le 25th Hours Hotel, Terminus Nord. Donc pareil, c'est symbolique, c'est lié aussi à la gare, au voyage, au repos et au bien-être. Donc ça, on est vraiment ravis de ces nouveaux partenariats. Et puis aussi, il y a d'autres partenaires qu'on connaissait mais qui n'avaient pas encore participé ces dernières années à Magic Barbès, comme l'Orchestre des Trois Tambours, qui est un orchestre de quartier. Donc on est vraiment ravis de les accueillir.
Quel premier concert auquel on peut assister pendant le festival cette année?
Oui, tout à fait. Alors j'avais dit que j'essayais en fait, pour ne pas privilégier certains plus que d'autres, voilà, j'avais dit que j'essayais de ne pas donner trop d'exemples et que j'invitais plutôt tous les auditeurs à aller sur notre site pour aller voir toute la programmation.
Alors peut-être sans nous donner de nom, mais est-ce que vous pouvez nous raconter sur... maintenant je passe plus sur l'univers musical, qui est quand même important sur le festival. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre? À défaut d'avoir des noms, peut-être des genres, des ambiances, des...
Oh, alors c'est toujours très éclectique. On va entendre pas mal de... à la fois du rail mixé à de l'électro, à de... du hip-hop, de la musique africaine, voilà, tout ça très bien mixé.
Et ces artistes, pareil, pour comprendre, comment vous les avez trouvés?
On a un programmateur. Alors, je parle des artistes qui vont jouer à FGO Barbara. C'est notre programmateur qui les a sélectionnés.
Et est-ce que vous avez, pareil, des critères précis qui font...
Voilà, c'est à lui qu'il faut demander. Ça dépend de ses envies, ça dépend de la disponibilité des artistes, ça dépend... Après, à la fois, il y a des têtes d'affiche et puis il y a des artistes plus jeunes qu'il a envie de promouvoir.
Mais ce sont des artistes... Alors, je fais une parenthèse pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, mais le FGO Barbara est aussi vraiment en bas de la station Barbet. C'est un lieu, notamment, on peut, par exemple, répéter en groupe. Tous ces artistes qu'on va voir, ils ont un lien avec le FGO Barbara. Est-ce qu'ils viennent jouer
Non, pas forcément. Alors, il y en a qui viennent rejouer, comme Sofiane Saïdi, et il y en a qui jouent pour la première fois et qu'on est ravis d'accueillir, et notamment l'artiste, parmi les autres, la DJ Chita, qui va jouer pendant l'Olympiade culturelle lors de la clôture du festival. Mais bon, il y en a d'autres aussi. Koshimoun, qui est un artiste qui connaît bien, un groupe qui connaît très bien le FGO Barbara. Et puis voilà, il y a ceux, les nouveaux qui arrivent, et puis ceux qu'on connaît très bien, et comme la Scred, hein, la Scred Connexion, qui a historiquement ancré dans le quartier de la Goutte d'Or et qu'on est vraiment ravis de revoir et d'accueillir à FGO Barbara.
Je voyais, vous mentionniez justement Sofiane Saïdi, qui est surnommé alors le prince du rail 2.0. Il avait collaboré avec Rachita. Je voyais aussi que dans des précédentes éditions, on retrouve aussi souvent des artistes d'origine algérienne. Je pense par exemple à Mohamed Lamouri. Est-ce que c'est à Barbès, est-ce que c'est un quartier qui entretient un lien particulier avec la musique algérienne?
Alors, je vais laisser Lily en parler parce qu'elle est, voilà, c'est sa petite parenthèse à elle. Elle est habitante du quartier et elle a été dans différentes écoles.
Oui, donc du coup, moi, j'ai grandi à la Goutte d'Or, j'ai vécu toute ma vie à Barbès. Et effectivement, je pense qu'il y a une prédominance de la culture algérienne, on ne peut pas le nier. Mais il ne faut pas non plus effacer les autres cultures, bien au contraire, je pense qu'il y a un lien très fort qui s'est formé entre toutes les cultures du Maghreb et aussi... La culture de l'Afrique subsaharienne qui est multiple. Donc je pense que tout ça crée un lien très homogène et d'amour et de solidarité, de partage. Et ça fait un peu... je trouve que ça représente très bien le festival Majid Barbès et tout ce qui est mis en place en termes de culture dans la Goutte d'Or, c'est ce lien entre toutes les cultures en fait.
Et on peut rappeler au passage que l'artiste associé à FGO Barbara, c'est Mustapha Amokran du groupe Zebda et qui est également d'origine algérienne.
Groupe Zebda, question. Exactement, j'allais y passer. Donc, toute dernière question sur... j'aimerais revenir sur aussi une actualité. Donc, en mars, le promoteur donc, qui est en charge des travaux du magasin Tati de Barbès donc, a annoncé que les travaux pour remplacer l'ancien bâtiment se tiendraient au second semestre 2024. Alors, moi, j'ai grandi dans Gers. Le Tati de Barbès s'était ancré dans mon imaginaire. Est-ce que pour les habitants de Barbès, est-ce que Barbès, c'était mieux avant? Est-ce que ça change?
Mieux avant, ça serait un peu boomer de dire ça. Tout évolue, mais c'est vrai que c'est un petit pincement au cœur parce que Tati, c'était une institution. Mais après, j'espère que ce qui va arriver après sera également apprécié. Mais bon, Tati, c'est Tati. Oui, on aurait... Mais il est question qu'ils gardent l'enseigne, d'ailleurs. Hein.
Oui. Oui, je crois qu'ils avaient discuté du fait qu'on garde le nom Tati. Oui. Pour toute cette culture, en fait.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle du coup qu'on peut retrouver plus d'informations sur le festival Magic Barbas United en allant notamment sur le site du FGO Barbara. Donc c'est fgo-barbara.fr et évidemment pour plus d'informations, prenez vos places, c'est du 22 au 26 mai. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été au micro de la matinale de 19h. On reste un petit peu dans l'univers du Magic Barbas United avec un peu de musique. وعارضتني في الليل تبكي لي على الزهر منها نكوي قلبي وحدي وانا لم نشكي وموالفه وصبره قالوا عليها مريولة من خوف التحزامي عدين نكوي قلبي وحدي وانا لم نشكي قلبي وحدي وانا لم نشكي C'était Sofiane Saïdi, Mazalda et Amar 808 avec le titre El Enjoum. J'espère ne pas avoir écorché le titre. C'est Sofiane Saïdi, on le retrouve, je rappelle, au Magic Barbas United, festival que vous pourrez retrouver. Plus d'informations évidemment sur fgo-du6barbara.fr. 19h53.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Plus qu'une poignée de minutes avant de terminer cette matinale de 19h, mais juste avant, on accueille Esteban. On va parler de sport, c'est Esteban. Bonsoir
oui,
à toi.
Bonsoir, chers auditrices, auditeurs de Radio Campus Paris. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique sportive sur le 93.9. Et on va parler de l'actu chaude. Hier soir, moi, j'étais au Parc des Princes, voilà, pour suivre le dernier match de la saison du Paris Saint-Germain face à Toulouse. Bon alors tout était réuni pour une belle fête tout simplement parce que il faisait beau, il faisait chaud, le spectacle n'a pas du tout été au rendez-vous. Voilà, je pèse mes mots, c'était catastrophique. Les Parisiens, déjà champions de France pour la 12e fois de leur histoire, se sont inclinés 3 buts à 1 après une performance absolument pathétique face au TFC. Et pourtant ça avait bien démarré pour les hommes de Luis Enrique avec un magnifique but de Kylian Mbappé pour sa dernière au Parc des Princes. Et oui, parce que hier c'était la grande dernière du numéro 7 devant ses supporters, lui qui a officialisé son départ du club club vendredi dernier dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.
Pour la 14e année consécutive.
Eh oui, non mais... Et l'atmosphère était assez spéciale autour de cette dernière d'Mbappé, assez paradoxale même, je dois dire, puisqu'il a été sifflé par une partie des supporters lors de l'annonce des compositions, puis ensuite ovationné par les supporters du collectif Ultra Paris, le célèbre cup de la tribune Auteuil. Une grande banderole et un immense tifo ensuite à l'effigie du joueur originaire de Bondy ont accompagné la dernière danse de Mbappé. Alors voilà, donc cette année au club, 14 titres, peut-être 15 avec la finale de Coupe de France qui reste à jouer à la fin du mois de mai contre l'Olympique Lyonnais. Mbappé au PSG, c'est quand même 256 buts, meilleur buteur de l'histoire du club, des performances absolument incroyables. Et pourtant, son cas divise quand même encore au sein des supporters parisiens entre manque de respect répété envers l'institution. D'ailleurs, le dernier en date, c'est donc sa vidéo de vendredi dernier. Le club n'était tout simplement pas au courant de cette vidéo, ils l'ont appris en même temps que nous. Donc voilà, pas très cool. Bref, tout n'a pas été parfait, loin de là, au cours de son histoire au PSG, mais l'attaquant de l'équipe de France part quand même en légende du club, ça pour moi c'est absolument indéniable. Il n'y a pas eu dommage particulier donc de la part du club pour Mbappé, le PSG voulait vraiment dédier la soirée au 12e titre de champion de France, mais on a eu un hommage pour le grand, l'immense Michel Montana, speaker officiel du Paris Saint-Germain depuis 26 ans et qui prendra sa retraite à l'issue de la saison, c'était son dernier match hier au Parc des Princes. Alors donc si sur le terrain il n'y avait pas de saveur avec une prestation indigne des Parisiens, c'est une belle équipe de Toulouse, il faut le souligner quand même. Les supporters en tribune ont été au rendez-vous lançant des chants pendant les 90 minutes et bien au-delà. On a pu assister également à un sublime concert et également une belle communion entre les joueurs et les supporters, et ça fait plaisir quand même de voir le Parc des Princes heureux comme ça, quand on sait qu'il y a à peine un an, les supporters faisaient grève en total désaccord avec la politique du club. Donc voilà, il reste désormais deux petits matchs de Ligue 1 à l'extérieur et une finale de Coupe de France à aller chercher pour essayer de terminer la saison le mieux possible.
Et comme la saison passe vite, en tout cas, merci beaucoup Esteban pour cette chronique sur le nouvel exploit renouvelé du PSG. 19h56 et ça y est, la matinale s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Elios ainsi qu'à Hugo à la co-interview. Merci beaucoup à Guilhem à l'animation du Zoom. Merci à Esteban et Rosalie pour leurs chroniques respectives. Gabriel à la réalisation et Héloïse, Inès et Lucas à la coordination de cette émission sur Feuille du Monde. On revient demain, même heure, avec un nouvel épisode des Mardis de l'Europe autour de la santé. Je m'arrête là. Et d'ici là, rendez-vous sur radiocampusparis.org et les plateformes de podcast pour nous réécouter. À 20h, retrouvez Pièces détachées, mensuel théâtral sur Radio Campus Paris. Et moi, je me permets un petit mot personnel, je vous dis à vendredi pour le deuxième épisode de Y a-t-il un avion dans le pilote ? Ma langue n'a pas fourché, c'est vraiment le titre de l'émission. Y a-t-il un avion dans le pilote ? C'est une série de pilotes en direct qui cherche la prochaine émission satirique de Radio Campus Paris. Je vous souhaite une très bonne soirée sur le 93.9, plus qu'une semaine avant le week-end.